Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 12 juin 2024 et pendant encore deux semaines, chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Dans cette matière, on étudie le fonctionnement du web et plus généralement du numérique omniprésent autour de nous, dans nos poches, nos habitats, dans les espaces publics, dans les administrations françaises et maintenant, avec le déploiement rapide de l'intelligence artificielle, cette explosion des outils numériques pose des questions éthiques, sociales, politiques, cognitives, environnementales et tant d'autres. Pendant tout le semestre, les étudiants et étudiantes ont étudié plusieurs problématiques en rapport avec le numérique à travers la lecture et l'écriture d'articles scientifiques. Et à la radio, aujourd'hui, ils vous restituent une partie de ce travail. Pour cette session, je m'appelle Quentin et je suis accompagné d'Elsa, Anna, Gabriel et Théo. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, jusqu'à maintenant, on a surtout parlé dans cette émission de surveillance, aussi bien dans les espaces publics que dans l'intimité. Aujourd'hui, on change complètement de sujet pour cette dernière émission de l'après-midi, car vous allez nous parler de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on en parle à toutes les sauces, et certaines entreprises comme Facebook imaginent un monde merveilleux entièrement virtuel, dans lequel on communique à travers un casque, on se touche grâce à des combinaisons qui reproduisent les touchés, on fait des réunions pour concevoir des produits, etc., etc. Mais au-delà de ces annonces marketing, où en est vraiment la réalité virtuelle? Comment cet objet technique influence-t-il notre rapport au monde et aux autres? Quels sont les champs d'application étudiés par la science? Peut-on trouver des utilisations convaincantes? Et enfin, y a-t-il des effets néfastes auxquels on ne pense pas? Autant de questions auxquelles vous allez donner des éléments de réponse pendant cette émission. Et Théo, c'est à toi.
Alors, tout d'abord, nous allons commencer par l'un des premiers dispositifs de réalité virtuelle. C'était le Sensorama. Il a été créé en 1962 par Morton Edig. Alors, c'est un dispositif mécanique qui comprend un écran à couleur, des ventilateurs, des émetteurs d'odeurs, un système de son, ainsi qu'un fauteuil mobile. Ici, l'idée, c'était de simuler une balade en moto à travers New York. Et on recréait cette expérience au travers d'une moto imaginaire où l'on se plaçait, on regardait un écran. Les sensations devant, elles étaient générées par un ventilateur. Les odeurs de l'essence, des bars, par des produits chimiques. Et le bruit, par les enceintes. Mais ici, bien que la machine elle fonctionne encore aujourd'hui, le public ne peut pas réellement interagir. Il n'est pas vraiment plongé dans le monde artificiel que propose cette machine. Et c'est sur ce dernier point que diffère la définition que nous pouvons donner aujourd'hui de la réalité virtuelle. Une définition actuelle de la réalité virtuelle serait la suivante. Alors, la réalité virtuelle serait une expérience immersive générée par un ordinateur dans laquelle les utilisateurs peuvent explorer et interagir avec un environnement simulé en trois dimensions. C'est cette capacité à interagir en temps réel avec l'environnement qui distingue véritablement la réalité virtuelle moderne des premières tentatives comme avec le Sensorama. Cette expérience, elle est rendue possible grâce à des dispositifs tels que le casque de réalité virtuelle, des gants ou encore des tapis et d'autres périphériques d'entrée. Ces dispositifs avancés permettent en fait une immersion complète où les utilisateurs peuvent non seulement voir, mais aussi interagir, toucher et manipuler les objets virtuels. Il y a quatre points clés qui peuvent aider à préciser cette définition. Premièrement, le système doit être immersif, c'est-à-dire qu'il doit plonger complètement l'utilisateur dans un environnement artificiel en stimulant ses sens. Deuxièmement, le système doit permettre un feedback des actions de l'utilisateur pour renforcer l'immersion. Ces deux premiers points permettent de créer le troisième, qui est l'interactivité entre l'utilisateur et le système de réalité virtuelle. Cette interactivité, elle est cruciale pour maintenir l'illusion d'être dans un monde différent et pour permettre à l'utilisateur de se sentir en contrôle de l'expérience. Le tout dernier point, c'est le monde virtuel, qui peut être réel ou imaginaire et qui sert de base à l'expérience. Les mondes virtuels peuvent être conçus pour divers objectifs, allant de la formation professionnelle à l'exploration artistique et au divertissement. Alors, voici une vidéo de la chaîne YouTube Mosaïque Cristal qui présente les principaux apports et applications de la réalité virtuelle, notamment comment la VR se met au service de la culture et du divertissement.
Les autres, la réalité virtuelle, c'est une technologie permettant de simuler numériquement un environnement grâce à une machine. La réalité virtuelle permet donc à une personne de vivre une expérience d'immersion et de mener une activité sensomotrice dans un monde artificiel.
Nous sommes à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, où la réalité virtuelle prend place petit à petit.
C'était assez intéressant, j'ai jamais fait de la réalité virtuelle avant.
Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant par exemple ?
Qu'on puisse déjà déplacer sa tête et voir vraiment l'endroit où on tire. Je ne bougeais pas, mais j'avais l'impression de bouger vraiment. C'était très immersif.
C'est un nouveau dispositif proposé par la médiathèque depuis peu. Il se trouve dans l'espace Checkpoint qui regroupe le monde du jeu et des nouvelles technologies. Tout comme les livres et les revues, la réalité virtuelle et les jeux vidéo ont tout à fait leur place dans le monde de la culture, notamment pour la jeunesse.
On essaye d'être à la page au niveau du numérique, donc effectivement de proposer soit des actions comme celle-ci autour du casque réalité virtuelle.
Alors, comme on a pu le voir, l'utilisation de la réalité virtuelle se répand dans plusieurs domaines, notamment pour attirer les jeunes culturellement. Les applications culturelles de la réalité virtuelle permettent d'ouvrir de nouvelles voies pour l'apprentissage et la découverte. Par exemple, des monuments peuvent être visités pour permettre aux visiteurs de découvrir le monument à travers le temps, comme par exemple Notre-Dame de Paris. Ces visites virtuelles offrent une perspective unique et enrichissante, permettant aux utilisateurs de voyager dans le passé et de voir des détails qui seraient autrement et bien inaccessibles. Toutefois, au-delà de l'immersion, de l'interaction qu'elle offre, le déploiement de la réalité virtuelle soulève également des questions cruciales, tant à son influence sur le comportement humain et ses applications pratiques dans notre société. Il est alors important de considérer comment l'immersion profonde dans des environnements virtuels peut affecter notre perception de la réalité et nos interactions sociales. Les implications psychologiques et sociales de la réalité virtuelle sont vastes et complexes et méritent ainsi une attention particulière pour comprendre pleinement son potentiel et ses risques. Nous nous demanderons alors quels sont les champs d'application de la réalité virtuelle et comment son déploiement pourrait influencer le comportement des individus. Je passe à la parole à Anna qui va rentrer en détail des applications de la réalité virtuelle dans le domaine du médical.
Parmi les domaines d'utilisation possibles de la réalité virtuelle, nous pouvons retrouver celui de la santé et plus particulièrement pour le traitement de la douleur, des phobies et des maladies mentales. Dans le cas des phobies, elle permet aux utilisateurs de se retrouver dans des situations de la vie réelle où le patient peut être exposé à ses peurs de manière répétée et à une intensité variable, tout en ayant un contrôle total de la situation. Cette immersion contrôlée aide les patients à se familiariser progressivement avec leurs peurs sans se sentir complètement dépassés. Ce traitement permet de se placer dans des situations qui pourraient être dangereuses en toute sécurité, comme par exemple s'exposer à la peur des hauteurs. Ainsi, les patients peuvent simuler l'expérience de se tenir au bord d'une falaise sans aucun risque physique réel de tomber. Cette méthode permet également aux patients d'affronter des peurs qui peuvent être difficiles d'accès en termes de logistique, comme la peur des avions ou des orages, l'exposition à répétition et à diverses situations anxiogènes pour une personne souffrant de phobie devient dès lors possible en tout temps et en tout lieu. Cela est particulièrement utile pour les patients vivant dans des zones où il serait autrement impossible de recréer ces situations spécifiques. Pour mieux expliquer ce type de traitement, voici un extrait du journal télévisé de France 3 Occitanie, daté de novembre 2021, qui présente l'interview d'un médecin utilisant un casque de réalité virtuelle pour traiter des addictions et phobies de ses patients.
Semaine, ce casque de réalité virtuelle est devenu l'outil de travail d'Alexandra Le Serre. L'addictologue gère toute la séance depuis son ordinateur.
Dedans, il y a toutes les pathologies. Donc j'ai toutes les phobies existantes.
Aujourd'hui, les trois quarts des patients d'Alexandra sont traités via cette technologie.
C'est plus simple que de devoir emmener les gens dans un supermarché, de les emmener dans un avion, par exemple, pour les gens qui ont la phobie de prendre l'avion, etc., etc. Et puis ça permet aux gens aussi d'apprendre dans la réalité virtuelle et de remettre en application ce qu'ils ont appris en réalité virtuelle dans la vraie vie.
Le casque vissé sur la tête, Andrea est venue tenter de soigner sa peur des relations sociales. S'intégrer à un groupe, prendre la parole devant sa classe, la jeune fille se confronte à ses angoisses.
Et qu'est-ce que vous lui diriez?
Bah,
pour le coup, je sais pas.
Là, je sens de plus en plus d'amélioration, quoi. Donc, j'arrive un petit peu plus à m'intégrer, à avoir des relations, quoi. C'est...
Si Nathan et Andrea commencent à avoir des résultats, ils auront besoin d'une dizaine de séances chacun pour tourner la page de leur trouble.
Ainsi, comme pour tout traitement agissant sur la psychologie du patient, l'utilisation de la réalité virtuelle pour traiter les phobies nécessite de nombreuses sessions d'exposition et ne présente pas un taux de réussite de 100%. Les résultats varient selon la gravité de la phobie et la réceptivité individuelle au traitement. Pour donner un autre exemple de l'utilisation de la réalité virtuelle, nous pouvons nous intéresser au traitement de la douleur. Par exemple, des études ont été menées pour mesurer l'efficacité de la réalité virtuelle pour distraire les enfants recevant un traitement de chimiothérapie afin de gérer la douleur. Les chercheurs ont constaté que l'immersion dans un environnement virtuel peut aider à réduire l'anxiété et le stress associés aux procédures médicales. Ces études conclut que les enfants de la condition distraction, avec un système de réalité virtuelle de type immersif, ont présenté moins de symptômes de détresse que les enfants des autres conditions, surtout en ce qui a trait à leur rythme cardiaque et au rapport subjectif de la douleur. Ces résultats suggèrent que la réalité virtuelle peut être une méthode efficace et non invasive pour améliorer le confort des patients. Par conséquent, la réalité virtuelle permet de diminuer le sentiment de détresse immédiatement après le traitement et 82% des jeunes participants de ces études ont affirmé que le traitement de chimiothérapie combiné à la réalité virtuelle rendait le traitement moins désagréable que s'il était donné de façon traditionnelle. Ce résultat souligne le potentiel de la réalité virtuelle pour transformer l'expérience de traitement médical chez les jeunes patients. Mais il faut tout de même noter que cet effet n'est pas durable dans le temps et qu'il peut être atteint de la même manière par l'hypnose. Cependant, la réalité virtuelle offre une alternative pratique et accessible, surtout dans les établissements où la formation en hypnose n'est pas disponible. L'utilisation de la réalité virtuelle a l'avantage de ne pas entraîner de l'accoutumance physique à ce traitement, contrairement aux antidouleurs classiques qui peuvent présenter une accoutumance dès les 7 premiers jours de traitement, même en respectant les doses recommandées. Cela en fait une option particulièrement intéressante pour les patients qui cherchent à éviter les médicaments opioïdes. Ainsi, la réalité virtuelle peut donc avoir un impact positif sur la santé des utilisateurs dans un cadre d'utilisation contrôlée. Dans la suite, Gabriel va vous parler de l'impact de la réalité virtuelle sur le comportement des individus dans un contexte plus large.
Merci Anna. On va désormais effectivement s'intéresser donc à l'impact que la réalité virtuelle peut avoir sur ses utilisateurs. Donc, pour commencer, un environnement virtuel permet à un utilisateur de créer un avatar dont l'apparence peut être complètement différente de celle qu'il a en réalité, incarnant ainsi un personnage ayant une apparence potentiellement complètement différente de la sienne. Un individu pourrait être amené à adopter des comportements différents. On appelle cela l'effet Proteus et on peut l'expliquer par les stéréotypes qui accompagnent les caractéristiques physiques des individus. En clair, lorsqu'un individu incarne dans un environnement virtuel un personnage avec des caractéristiques physiques ou un statut donné, il serait enclin à adopter des comportements qu'on attendrait naturellement d'une personne ayant ses attributs particuliers. Par exemple, une femme incarnant un homme dans un environnement virtuel pourrait être amenée à adopter des comportements stéréotypés qu'on attribue généralement aux hommes. Le sentiment de présence qui traduit l'immersion d'un utilisateur dans l'environnement qu'on lui propose agit comme un catalyseur de ce changement de comportement. Ainsi, plus un environnement est immersif, plus il est susceptible d'induire des changements de comportement chez ses utilisateurs. En outre, c'est également la réduction de la distance entre le téléspectateur et l'écran qui pourrait, dans le cadre de la réalité virtuelle, rendre l'expérience plus propice à l'implication de l'utilisateur dans les situations qui lui sont présentées. Ainsi, pour vous donner un exemple concret d'utilisation de la réalité virtuelle, j'aimerais vous faire écouter un court extrait d'une émission diffusée sur France 24 qui présente une expérience menée par des chercheurs de l'université de Stanford.
Compassion, vous avez utilisé un film, Becoming Homeless, Devenir SDF. Qu'avez-vous découvert exactement ?
L'expérience que l'on fit vivre est la suivante. Vous êtes dans votre appartement, le propriétaire frappe à la porte pour vous réclamer le loyer, vous vous retrouvez sans travail, vous vous mettez à vendre des meubles de votre appartement, vous vous faites expulser, vous finissez par vivre dans votre voiture, puis la police vous l'embarque et vous vous retrouvez à dormir dans les bus. C'est ce genre d'expérience traumatisante que vous vivez. Nous avons constaté que le fait de devenir SDF, le temps de cette expérience en réalité virtuelle, modifie le comportement dans une mesure bien plus grande que lorsqu'on se met à la place de l'autre, que l'on lit des études ou que l'on regarde un film en deux dimensions sur ce thème. On a découvert aussi que même 2 mois après, les gens qui ont vécu l'expérience sont prêts à signer une pétition qui vise à augmenter leurs impôts pour augmenter les moyens dédiés aux structures pour SDF. En d'autres termes, devenir SDF dans la réalité virtuelle contribue à changer les comportements même 2 mois après.
Voilà, donc cette étude intitulée « Experience on Demand » menée par Jeremy Byenson au sein de l'Université Stanford a, comme on l'a entendu, permis de mettre en évidence le fait que plonger un utilisateur dans la vie d'un SDF, donc via la réalité virtuelle, augmente de façon significative son empathie vis-à-vis de cette personne en comparaison à l'effet qu'aurait eu un simple visionnage de reportage ou un témoignage. Ainsi, le sujet de cette expérience appréhende de façon immersive la vie d'un SDF et se projette dans celle-ci un résultat très proche de la réalité qu'il est compliqué d'obtenir autrement que dans un espace virtuel. Au-delà de l'impact de l'environnement virtuel sur les comportements de ses utilisateurs, on peut s'interroger sur les impacts plus concrets et physiques que l'immersion dans un environnement virtuel peut générer. À ce sujet, les travaux de Yuan et Steed ont permis de mettre en évidence les liens qui peuvent se créer entre le bras virtuel et le bras réel d'un utilisateur. Ils ont ainsi montré qu'une interaction avec le bras virtuel, donc dans l'environnement virtuel, peut être perçue par le sujet comme une interaction avec son bras réel. Donc finalement, ce que ces travaux de recherche montrent, c'est que l'immersion qu'on peut obtenir grâce à des environnements virtuels n'est pas anodine et qu'elle a des impacts tout à fait concrets sur la perception, les comportements ou même sur le ressenti physique des individus qui utilisent cette technologie. On peut en effet faire vivre aux utilisateurs des expériences extrêmement réalistes qui permettent une identification au personnage incarné supérieure à celle obtenue par des méthodes plus classiques comme le visionnage d'un reportage.
Merci beaucoup Gabriel. Alors jusqu'ici vous nous avez présenté plusieurs cas d'application qui semblent intéressants et nouveaux dans la réalité virtuelle. En revanche, ce dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'est-ce que sous-tend en termes techniques, socio-techniques, tout le déploiement de la réalité virtuelle, notamment d'un point de vue environnemental. C'est souvent ce qu'on a tendance à oublier dans les innovations technologiques. Et je crois que Elsa, toi, tu vas nous présenter un petit peu de quoi on parle et quels sont les impacts de ce genre de technologie.
Effectivement, malgré les bienfaits de la réalité virtuelle dans le domaine médical ou sur le comportement des individus, la possible expansion de son utilisation doit être modérée à cause des défis environnementaux. De manière générale, la numérisation de la société est aujourd'hui un des principaux facteurs de la crise climatique. Selon les études du cabinet Green IT, le secteur représenterait en 2022 près de 4% de l'empreinte carbone mondiale. Une étude a été menée par le cadre d'études pour un immersif responsable, le CEPIR, pour déterminer l'impact écologique de la réalité virtuelle via l'empreinte carbone. L'évaluation de l'empreinte carbone a été réalisée à partir de 2 œuvres VR. La première, créée en 2018, s'intitule Umami et elle a pour but d'immerger l'utilisateur dans la peau d'un personnage animé redécouvrant ses souvenirs à travers une série de plats japonais, d'assaisonnement, de boissons et de goûts. La deuxième œuvre, créée en 2022, s'intitule Okawari et invite l'utilisateur à s'asseoir à l'une des tables du restaurant Okawari. Le bilan carbone de ces œuvres a été établi en réalisant l'équivalent carbone de plusieurs éléments comme la consommation énergétique du bâtiment, la conception, la diffusion de l'œuvre numérique, mais aussi l'analyse des cycles de vie des casques. L'étude nous donne quelques chiffres comme le pack comportant le casque VR écran LCD et 2 manettes qui représente 50 kg de CO2, tandis que le pack comportant le casque vert écran OLED et 2 manettes arrive à 92 kg CO2. Ces valeurs montrent que le type d'écran a un impact significatif sur l'empreinte carbone de la fabrication des casques. En comparaison, le cycle de vie d'une PlayStation 4 équivaut par exemple à la production de 89 kg CO2. De plus, on peut ajouter à ces constatations que la fabrication et le transport d'un casque VR et de ses manettes consomment en moyenne 100 mètres cubes d'eau et l'équivalent de 27 litres de pétrole, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 2 Français. L'aspect physique de la VR et le choix de technologies toujours plus avancées a donc un fort impact écologique. Selon le journal Reporter, de plus en plus d'entreprises investissent dans les métaverses, voyant dans ces univers virtuels l'Internet de demain. Des chercheurs dénoncent au contraire un fantasme technologique aux conséquences dramatiques pour l'environnement. Pour expliquer ses conséquences, voici un extrait de Selim Alexandre Arad, membre de l'INR, l'Institut numérique responsable, en direct sur Cité des sciences et de l'industrie en 2022.
Dans les années 60-70, nos terminaux, quels qu'ils soient, c'était une vingtaine, trentaine de métaux rares. Aujourd'hui, on est entre 80 et 90 métaux rares pour les terminaux les plus avancés technologiquement. Vous vous doutez bien, pour les technologies associées au métavers, là aussi, la consommation de terres rares, elle va être, en termes de typologie de métaux, aussi forte, si ce n'est peut-être légèrement supérieure. Je ne veux pas non plus trop me projeter. Mais selon certaines études, on aurait un bond du volume de consommation qui va de 3 à 9 mois, 9 fois donc la consommation actuelle. Je rappelle que, hélas ou pas, nous sommes sur un monde fini. Nous ne pouvons pas donc consommer plus que ce que nous avons déjà. Quand même aujourd'hui, on a la conquête spatiale qui veut effectivement exploiter les métaux rares dans les ceintures d'astéroïdes. Actuellement, en l'état des connaissances, ça n'est pas accessible. Voilà, mais c'est encore une fois pour matérialiser les effets derrière de...
L'essor rapide depuis les années 1990 des technologies numériques a fait naître un besoin croissant en de nombreux métaux, dont beaucoup sont rares. Les métaux rares, présents dans les technologies liées à la réalité virtuelle, comme le cobalt, le lithium, le mercure, sont extraits en faible quantité et sont donc limités. Selon le Bureau français de recherche géologique et minière, la consommation mondiale de cobalt s'oriente vers une forte croissance, entre 7 à 10% par an. Ils estiment ainsi qu'elle devrait attendre elle devrait atteindre 200 kilotonnes en 2025. Avec notre consommation de métaux rares qui ne cesse d'augmenter et sa présence limitée, il nous reste moins de 30 ans de numérique devant nous, alerte Frédéric Bordage. L'urgence est de collectivement arbitrer les usages en nous demandant quoi faire avec les ressources disponibles. En conclusion, la réalité virtuelle démontre qu'elle altère non seulement nos perceptions sensorielles, mais peut également influencer notre comportement. Ses applications médicales montrent un véritable potentiel dans le traitement de divers troubles, bien que des effets indésirables soient à prendre en considération. Cependant, la démocratisation de la réalité virtuelle doit relever d'importants défis, notamment environnementaux. Ainsi, le défi crucial que devra relever la réalité virtuelle est de trouver un équilibre entre le développement de ces technologies et la préservation des valeurs humaines fondamentales ainsi que l'environnement.
Merci à toutes et à tous pour votre présentation, très intéressante parce qu'on fait un tour d'horizon de choses qui ne sont pas forcément connues dans la réalité virtuelle. Réalité virtuelle, je pense que le grand public pense avant tout jeux vidéo ou métaverse ou les choses qui ont été pas mal marketées. Donc on voit que c'est assez contrasté et qu'il y a à la fois des points d'attention et des choses qui sont stimulantes du point de vue de la recherche. Alors justement, ça va un peu être autour de ça que vont tourner les questions que je vois affluer et que je vais donc vous poser. Alors, Vivien, Nathan et Julien posent une question un petit peu similaire pour savoir si, en gros, l'utilisation excessive de la réalité virtuelle peut avoir des conséquences sur notre vie sociale. Moi, je rajouterais que, par exemple, on a déjà vu dans des dystopies un peu comme Black Mirror, où il y a simultanément une très très forte connexion et immersion des utilisateurs, mais où l'utilisateur, finalement, il est seul dans une boîte. Est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'on a des données qui pourraient dire que ça pose des problèmes de santé mentale, ou bien est-ce qu'on pourrait imaginer que ça remplace complètement les interactions dans la vraie vie ?
Alors, en ce qui concerne le traitement de certaines phobies, il n'y a pas vraiment de problème par rapport au social. Par contre, en ce qui concerne, comme vous l'avez mentionné, le métaverse ou d'autres technologies d'environnement virtuel social, on peut imaginer qu'il y a un problème social au niveau effectivement de l'isolement des personnes qui pourraient passer des heures dans ces environnements. Après, j'ai pas de données précises à ce sujet.
Après, je pense que des domaines qu'on a présentés, c'était sûrement pour des traitements ou des utilisations très précises, mais toujours dans des conditions contrôlées, principalement pour la médecine, mais aussi pour la culture et tout ça. C'est des petites sessions pour un but précis. Je pense que dans les jeux vidéo ou en libre accès, surtout pour des personnes de très jeune âge ou qui n'ont pas de contrôle ou pas de vie sociale déjà établie, ça peut être un très gros problème d'isolement social.
malgré du coup le fait qu'il y ait beaucoup d'interactions sociales dans les jeux, dans le métaverse, dans la réalité virtuelle.
Ce serait plus un isolement social de son cercle dans la réalité, on va dire, et qui se base sur des jeux, par exemple. Mais ça crée aussi une grande dépendance, parce qu'on a vu de nombreuses fois où des communautés de jeux qui ne peuvent plus jouer entre eux, ils perdent tout ça, tous leurs liens, et dans la réalité, ils se retrouvent sans rien, en fait.
Je pense aussi qu'on peut ajouter que la réalité virtuelle peut créer des disparités sociales entre les différentes classes, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un casque de réalité virtuelle. Et donc ça peut aussi amener à isoler certaines personnes.
Merci beaucoup pour vos réponses. Clément demandait dans quelle mesure la réalité virtuelle est-elle efficace et accessible par rapport aux autres méthodes médicales. Alors, toi, tu avais mentionné le fait que l'hypnose puisse être aussi efficace, mais qu'on n'a pas forcément des gens formés en hypnose. Est-ce que sur les autres interventions, on a une amélioration de la réalité virtuelle par rapport à ce qu'on sait déjà faire, ou est-ce que c'est juste une proposition alternative qui sera peut-être plus ou moins adaptée en fonction du contexte? Est-ce que vous savez?
Par exemple, pour le traitement des phobies, ce que je dis, c'est que c'est utilisable en tout lieu. Dès qu'il y a un écran ou un casque, on peut reproduire toutes les situations possibles. Et c'est surtout ça qui a l'avantage, alors que, par exemple, dans un cabinet psychologue pour le traitement des phobies, il n'y aura pas accès à tout ça, on ne pourra pas mettre en application les conseils. C'est beaucoup plus compliqué.
Merci beaucoup. Un peu de prospective, Emmanuel demande: alors que la réalité virtuelle a déjà connu une grande expansion, peut-on imaginer qu'elle prenne une place centrale dans nos vies, comme dans la fiction Ready Player One de Spielberg? Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Oui.
Alors là, c'est plus, est-ce que vous pensez que ce genre de choses peut arriver à terme?
En l'occurrence, dans le film, si la réalité virtuelle a pris une place très importante, dû au contexte social où justement les personnes n'ont plus la possibilité de faire des activités, ils sont compartimentés dans des sortes de résidences, ils n'ont plus la capacité de faire des loisirs, etc. Et alors la réalité virtuelle est la seule échappatoire pour se divertir. Donc c'est un peu difficile en ce moment de s'imaginer un tel contexte, mais par le passé on a pu voir une telle chose avec le Covid, où en l'occurrence la réalité virtuelle c'est démocratisé, je pense, je n'ai pas des infos là-dessus, parce qu'elle permettait bien de pratiquer beaucoup de choses sans qu'on ait la possibilité de sortir de chez nous. Donc je pense que dans un contexte actuel où il n'y a pas de problème, ne devrait pas plus se démocratiser, mais elle pourrait se développer, et justement, comme mes camarades m'ont dit précédemment, servir dans plusieurs domaines différents.
J'aimerais juste ajouter qu'en théorie, pourquoi pas. Par contre, on a vu que le problème, il sera peut-être plutôt au niveau des ressources disponibles pour mettre au point tous ces équipements qui permettent la réalité virtuelle. Ça va être peut-être le plus gros problème pour la réelle démocratisation de la réalité virtuelle dans les pays, même les pays occidentaux qui sont les plus riches. Ça pourrait poser problème.
Oui, comme tu l'as dit, Gabriel, c'est les ressources qui posent problème pour le futur de la réalité virtuelle, avec notamment les métaux rares. Et du coup, la question aujourd'hui, c'est de recycler ces métaux rares. Et les données actuelles montrent que ça coûte plus cher de recycler les métaux rares que les extraire. Et donc, je pense que ça montre que le futur de la réalité virtuelle est en danger. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça.
C'est extrêmement intéressant. J'aimerais qu'on y revienne peut-être à la fin de la mission. J'ai encore 2-3 questions à vous poser, mais si vous avez encore l'énergie. Mais merci de souligner ce point-là, qui effectivement, va bien falloir qu'on le traite à un moment. Avant tout, je me demandais pourquoi, à ton avis, l'utilisation de la réalité virtuelle pour les patients qui du coup subissent une chimio, elle marche mieux, par exemple, qu'un film. Genre, qu'est-ce qui fait que ça c'est efficace pour détourner l'attention de la douleur, par exemple?
Du coup, pendant les recherches pour écrire l'article et le passage aux radios, on a vu que quand on voyait on pouvait faire... je trouve pas le mot en français, mais...
Dis-le en anglais, sinon.
Trick.
Ok, ouais, je...
okay. Voilà, on pouvait faire bugger le cerveau, ouais. Et lui faire croire que ce qui se passe, c'est différent de ce qui se passe sur son corps. Par exemple, aussi, on a vu... je pense qu'on a tous vu une vidéo avec un patient qui a une main de chaque côté, un miroir au milieu. Mmh. Et sur une main, on lui fait des... On touche la main. Et de l'autre côté, par exemple, on tape le marteau. Et ça va lui faire croire que c'est sa main qui est tapée, alors que c'est quelque chose en faux. Et il le reçoit comme de la douleur. Donc, plus c'est immersif... plus on a l'impression d'être détaché de son corps.
Ok, donc il y a vraiment un système de leurre, un petit peu.
Oui, c'est ça.
Qui fait qu'on arrive à avoir des vraies illusions au niveau du cerveau qu'on ne peut pas avoir juste avec une projection 2D.
Oui.
Là, on a un réel, on va dire, changement de nature entre les films, la réalité virtuelle. Mmh. Et du coup, je me posais une autre question. Donc, sur la simulation avec les personnes sans domicile fixe, donc... Là, c'était une étude au niveau de Stanford, je ne sais plus.
Oui, ça, Stanford.
C'est ça. Hein. Donc, de ce que je comprends par rapport à ta réponse, Elsa.
Anna.
Anna, pardon. Du coup, on comprend que c'est l'immersion qui va permettre peut-être de jouer sur les affects et de vraiment s'identifier plus que la simple information qu'on pourrait voir par rapport à un film. Et la question que je me posais, ça n'a peut-être pas été étudié, mais est-ce que accompagner un SDF pendant une journée de sa vie quotidienne, on pourrait imaginer que ça a les mêmes effets dans la mesure où, encore plus que dans la réalité virtuelle, on aurait... une immersion de fait d'être dans la vie quotidienne et de voir le quotidien de cette personne, quoi, par exemple.
Je pense qu'en fait, si on accompagnait simplement une personne SDF, il y aura déjà un biais cognitif des personnes qui nous voient et ça changerait peut-être leur comportement face au SDF. Et même si on était dans la peau, en réalité, de quelqu'un dans la rue et testé, on n'aurait pas le même comportement qu'une personne qui est là depuis des années et qui le vit différemment que nous, une journée ou comme ça.
Merci beaucoup. Et tu voulais dire quelque chose ? Ok. Alors, une dernière question. Moi, ce qui m'a marqué, alors je ne sais pas si ce chiffre, on peut sans doute le discuter, le réévaluer ou quoi, mais Anna, du coup... C'est ça.
Elsa,
j'ai encore confondu, c'est formidable. Elsa, tu nous as dit qu'en gros, avec l'extraction des terres rares et des métaux rares, il nous restait 30 ans de numérique devant nous. Vous, du coup, qui avez étudié à la fois les aspects positifs et négatifs de la réalité virtuelle, ce que ça apportait par rapport aux autres techniques numériques ou non dont on disposait, qu'est-ce qu'on fait de la réalité virtuelle ? Est-ce que on continue à la développer et à l'implémenter là où on trouve que c'est pertinent, tout en sachant que du coup ça grignote sur ce budget qu'on a pour ces 30 ans numériques, on va dire, ou est-ce que, malgré les avantages que ça peut avoir, on décide que ça ne vaut pas le coup et on jette ?
Moi, je pense qu'il faut quand même continuer à développer la réalité virtuelle, au moins en tant qu'étude avec des chercheurs, et pas le jeter tout de suite à la poubelle, mais que ce ne soit pas en libre service, et surtout que ce ne soit pas implanté dans tout et n'importe quoi, comme dans tous les jeux vidéo n'ont pas besoin d'une immersion complète en réalité virtuelle. Et si vous pouvez le garder pour le domaine médical ou pour la culture, ça pourrait être une meilleure idée.
Ok, j'aimerais bien avoir entendre l'avis de tout le monde, si ça vous dit.
Alors, je suis assez d'accord sur le principe. C'est vrai qu'il faudrait peut-être privilégier l'utilisation médicale, puisqu'on l'a vu que c'était techniquement, en termes de ressources compliquées, d'équiper presque tout le monde avec un casque de réalité virtuelle. Maintenant, c'est à discuter, je ne sais pas... En ce qui concerne, on voit quand même qu'il y a un développement des casques de réalité virtuelle qui est assez important. On a vu notamment le Apple Vision Pro récemment. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment probablement qu'il y a un marché à conquérir, j'imagine. Même un marché du coup du divertissement, probablement. Avec aussi, on a Meta qui est très implanté sur ce marché.
Pour moi, si on va continuer à exploiter la casque réalité virtuelle, si le grand public y voit un réel intérêt et... ça va pousser son exploitation aussi à trouver des alternatives. Si avec les métaux rares, ça ne passe pas, si beaucoup de personnes portent ce projet, ça continuera à perdurer. Peut-être qu'on recyclera des matériaux pour préserver ces technologies comme elle a un réel intérêt, mais s'il n'y a personne derrière pour l'exploiter, elle tombera dans l'oubli ou dans des cas, dans des domaines très spécifiques, moins grand public, tels que le domaine médical, comme on a pu le développer précédemment. Mais après, c'est vrai que si on ne fait pas attention sur l'exploitation eh bien, de tout ce qui est matériaux rares, ce qui risque le plus de se passer, ça va sûrement être un rétropédalage technologique ou avoir accès à un téléphone, à un PC pour une classe plutôt moyenne sera inimaginable. Et voilà.
Ok. Juste pour rappel, on n'a pas d'alternative pour l'instant aux métaux et aux terres rares. Donc, si jamais on défend ça, c'est qu'on imagine qu'à un moment, on va en trouver une, ce qui n'est pas sûr, mais en tout cas, c'est un pari. Un pari qu'on peut faire, quoi. Ok.
Je pense qu'on doit rapidement faire un choix, effectivement, vu qu'il reste apparemment 30 ans de numérique. Et donc, il faut faire le choix rapidement, vu que ça passe extrêmement vite. Et donc, comme le disaient mes collègues, privilégier plus le domaine médical, parce qu'il y a vraiment un avantage par rapport à d'autres méthodes, comme on le voyait avec les phobies. Donc, je pense que limiter peut-être le domaine du divertissement, parce que c'est pas vraiment essentiel pour l'humain, et donc privilégier forcément le médical qui est essentiel pour le futur.
Merci beaucoup pour vos réponses. Là, ça touche. On va s'arrêter là. Mais ça touche pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient y réfléchir, pousser un petit peu la réflexion à des choses très très compliquées, à savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, qu'est-ce qui est un besoin, qu'est-ce qui n'est pas un besoin. Et puis aussi, comment est-ce qu'on en arrive à des technologies comme la réalité virtuelle ? Parce qu'il faut bien que la recherche finance le développement de ce genre de choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, la recherche publique est prête à financer des choses qui n'auraient aucune application industrielle, mais uniquement de la santé ? Enfin, tout ça, c'est des questions très, très complexes et qui dépendent des pays. Mais bon, en tout cas, je trouve ça stimulant. Si vous voulez continuer à y réfléchir. En attendant, je vous remercie énormément, Anna, Elsa, Gabriel et Théo, de nous avoir partagé le fruit de votre travail. Pour W1, et ben on se retrouve mercredi prochain, nous serons le 19. En attendant, bonne fin d'après-midi à tous. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.